en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Madame le Président. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur effectivement de vous présenter une réflexion sur le judaïsme, les rites et l'intégration. Ce sujet qui concerne évidemment le judaïsme, où tant de rites rythment la vie quotidienne, est en fait d'une importance capitale pour l'ensemble de notre société aujourd'hui, et j'ai écrit ces modestes lignes avant même de connaître la teneur de la lettre du président du Sénat. Donc, en effet, ce qui nous fait bâtir une vie commune, ce sont des rites partagés. Les vœux du Nouvel An, les vacances, le repos dominical, les offices en tel ou tel culte, tout ceci donne des références communes qui nous agrègent en un peuple, une communauté humaine. La France est construite sur ce modèle parce qu'il n'y a pas d'autre modèle, que ce soit des rites religieux ou des rites civils. Ce sont ces gestes accomplis par l'ensemble d'une population qui lui donnent du lien. Le judaïsme s'est toujours défini comme la religion de la loi, du rite. Ce dernier est la traduction concrète de la foi en la loi, la confiance en la loi. Le rite devient ainsi la preuve de la foi. Si nous respectons le Shabbat, l'interdiction de travailler le samedi, c'est, comme le disent les 10 commandements, le texte de l'Exode, afin de témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il a arrêté de créer. Et nous l'imitons. Certes, nous pouvons croire que Dieu a bien suivi cette séquence sans arrêter nous-mêmes de travailler, mais nous ne sommes plus dans le partage d'un rite commun. Et donc nous ne sommes pas dans l'intégration à la vision juive du monde. C'est une autre forme du judaïsme. Je dirais une forme presque chrétienne de vivre le judaïsme. En effet, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 25 à 29, dit la chose suivante. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif n'est pas celui, c'est Paul toujours qui parle, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et en fait, en allant plus loin, Paul propose que le salut ne passe plus par la loi, mais par la foi, se basant sur un verset du prophète Habakkuk, « Et le juste par la foi vivra ». Comment le judaïsme répond à cette question? Je pourrais vous le préciser dans les questions, si vous voulez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que le christianisme propose de passer de l'acte au sens de l'acte. Ce qu'oublie Paul, c'est que le rite et le geste portent un sens qui n'est pas le sens, mais notre sens, un sens. Chacun, accomplissant un commandement, un rituel, lui attribue un sens qui lui est propre. On peut ne pas travailler Shabbat, parce que j'ai pris cet exemple, ou manger kasher, parce qu'on le faisait chez nos parents, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on le fait avec des amis. Et peu importe la raison, c'est notre raison et pas la raison. La nôtre, notre raison, le sens qui est le mien. Et chacun accomplit un rite en lui donnant sa propre raison. C'est la combinaison d'ailleurs de toutes les raisons humaines qui est probablement la raison divine. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'un même geste relie un groupe humain qui fait unité à ce moment. Pourquoi respecter ce rite? Et puisque j'ai pris cet exemple de la circoncision qui marque la rupture entre l'acte et le sens, pourquoi par exemple respecter la circoncision? Pourquoi manger kasher? Pourquoi respecter le repos du Shabbat? Je remarque d'ailleurs que Dans les études sociologiques, quand on parle de juifs pratiquants, l'élément qui détermine un juif pratiquant, c'est le respect du Shabbat, c'est-à-dire la capacité d'arrêter de produire un jour. Pourquoi ? Émile Durkheim postule dans les formes élémentaires de la vie religieuse qu'un rite nécessite une tribu pour observer ce rite et un mythe pour donner sens au rite. Mais les rites ont des ennemis. Tous les rites ont toujours eu les mêmes ennemis. Ceux qui voient une obligation utilitaire, par exemple, l'interdiction de manger du porc serait contextuelle. Si la Bible dit « tu ne mangeras pas de porc », c'est uniquement parce que la chair du porc se conservait difficilement dans le désert. Et donc, on dit pourquoi il y a ce rite ? Parce que telle et telle raison. Ce qui est contraire à la foi. Parce qu'on aurait du mal à imaginer que l'Éternel dise « tu ne mangeras pas de porc tant qu'on n'invente pas les réfrigérateurs ». Donc, on voit bien que la parole de Dieu qui est intemporelle ne peut pas se contingenter à une raison du rite. Et l'autre ennemi du rite, c'est celui qui veut obliger à l'accomplissement du rite. Le sortant du champ de la liberté. Or, un rite est un choix libre. Lorsqu'on couche son enfant, en général, on construit des rites de coucher qui sont juste nos moments et qui construisent ce qu'est une famille. Il suffit d'avoir eu des enfants, les avoir mis au lit, pour savoir qu'on construit des petits rituels. Massage, histoire, peu importe. On peut coucher ses enfants de manière unique. Puis on peut les faire, les coucher différemment. On peut les envoyer se coucher sans rien leur dire, on peut les laisser se vautrer devant la télévision jusqu'à ce que le sommeil s'en suive. Mais ce qui fait l'unicité du lien familial, c'est notre façon de ritualiser ce moment, somme toute banal, un moment simple, dont on fait un instant particulier parce qu'on lui donne du sens. Le rite met donc du sens dans quelque chose de normal, de banal. Les façons de manger, de vivre, sont autant de manières de faire société, selon la formule de Maurice Godelier. Mais les rites ont une autre fonction vitale qui est de poser des limites au n'importe quoi. Georges Braque a dit, à propos de l'art, « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». C'était à mon sens la plus belle définition de ce qu'est le judaïsme et de ce que c'est la loi, de manière générale. « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». C'est une façon pour lui de dire que face, par exemple, à l'émotion de la mort, le deuil, on va normer les choses. On ne va pas permettre à chacun d'exprimer son deuil n'importe comment, parfois dans des hurlements, dans des tonsures, dans des entailles faites au corps. On va gérer le deuil en proposant un temps de 7 jours de deuil, puis un mois de deuil, puis un an, puis régulièrement à l'anniversaire du décès, on va mettre des règles pour corriger l'émotion. Et c'est cette définition très juste de ce qu'est le judaïsme qui, avec ses 613 commandements bibliques, propose un modèle religieux dans la vie. Le rite est un cérémonial, et je maintiens, parce que, Madame le Président, vous m'avez fait l'honneur de le rappeler, parce que j'ai eu l'honneur de servir la France sous l'uniforme, qu'il y a aussi un cérémonial républicain et même une liturgie républicaine. Parce qu'il faut vivre ce moment sacré du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Ou un instant particulier où le drapeau s'incline devant le président de la République qui symbolise l'ensemble des Français. Il faut vivre ces moments, notamment dans un hommage à des militaires morts au combat, pour toucher là au sacré de l'État, à ces rites qui nous font vivre dans la même société, ces gestes qui donnent une émotion collective, comme nous pouvons le vivre lorsque, par le monde, tous les Juifs jeûnent le jour du grand pardon. Ou quand, dans tel ou tel calendrier religieux, tous les croyants d'une même religion vivent le même instant, la même émotion, la même espérance. C'est à la fois le jeûne et le partage collectif qui font sens et qui fondent le ciment d'une communauté humaine ou d'un pays. Le rituel militaire qui a cette fonction-là dans un régiment, sur un bâtiment ou sur une base aérienne, a la même fonction au niveau de la nation. J'oserais même une comparaison étonnante. Pourquoi, si on a un film sur un support DVD ou support que vous voulez, une cassette, ce que vous voulez, vous avez un film chez vous, vous ne le regardez pas. Il est là, posé sur une étagère, vous ne le regardez pas. Il suffit qu'il soit programmé par une chaîne de télévision. Et ce même film que vous avez disponible, vous le regardez à la télévision uniquement parce qu'il est vu par des millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que ce film qui ne vous tente pas particulièrement, vous prenez le temps de le voir pour vivre le moment, même par l'intermédiaire de la télé, par l'intermédiaire de l'écran, pour vivre quelque chose collectivement. C'est un rite. Le rite, donc, y compris celui risible du film du dimanche soir, qui est en général un film benêt, est donc en mesure d'unifier les individus éparses afin d'en faire une société. C'est le rite qui unifie les membres d'une société, qui se définissent eux-mêmes comme membres de cette société. Mais les rites sont des intercesseurs, des marqueurs de moments forts, comme la naissance, la mort, le mariage, la communion, la bar mitzvah dans le judaïsme. Et on peut vivre l'événement sans ces rituels. Mais ils deviennent partagés lorsqu'on les respecte, quand on respecte les règles. Un mariage est un moment dans une vie, un anniversaire de mariage devient un moment formidable quand tous les ans, on revit un rite d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on construit un rite sur un événement qui n'est rien d'autre que le rappel d'un autre événement, mais qui devient un événement en lui-même. Le respect du rite devient un événement en lui-même. C'est-à-dire que commémorer la sortie d'Égypte, c'est pas juste dire, il y a 3500 ans, nos ancêtres étaient en Égypte et en sont sortis. C'est dire, je vais moi-même sortir de mon Égypte. Par la façon de revivre le rite, je revis l'histoire. Bossuet affirme que vivre, c'est consommer du temps. Et le judaïsme se construit autour d'une forme de liturgie familiale, un rituel de la table, où à travers les plats, des façons d'organiser les aliments, nous transmettons une mémoire qui ressemble aussi certainement et qui rassemble aussi certainement que les rites les plus partagés. C'est d'ailleurs l'intégration des générations à venir avec les générations passées. Et seuls les rites peuvent permettre cette chose. Lorsque Moïse négocie avec Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple des Hébreux, Pharaon, à un moment, lui dit « Les adultes peuvent partir, mais qu'est-ce que tu vas t'encombrer des vieillards et des enfants ?» Les vieillards marchent lentement, ça va t'embêter dans le désert. Les enfants, il faut s'en occuper, il faut les nourrir, il faut leur donner à boire, c'est compliqué. Laisse les anciens et laisse les enfants ici, partez avec les adultes. Moïse répond « Nous partirons avec nos jeunes et nos anciens. » Une façon d'unifier à la fois le passé et le futur. Et c'est exactement le rite de la table qui donne du sens, qu'on vit au moment de la Pâque juive, par exemple, mais au moment du temps de Pâques dans toutes les religions. C'est ce rite de la table, du partage, qui donne du sens. Et le mot « sens » peut être compris comme la direction, la mise en avant, le mouvement, comme l'interprétation, le sens, l'explication, et aussi comme l'utilisation des cinq sens. Ce que Bossuet disait, vivre, c'est consommer du temps, donner du sens au temps qu'on vit. Le rite devient une expérience totale. Direction, explication, cinq sens. Ainsi, le vin, par exemple, dans toutes les cultures, le vin a un intérêt tout à fait particulier. Le vin, tout comme le pain, et qu'on retrouve dans les rituels des religions qui l'autorisent, avec quelque chose de sacré, parce que le vin comme le pain sont des produits qui n'existent pas à l'état naturel. Il faut chaque fois un travail de l'homme sur un don de Dieu. Et la prière sacramentelle que pose le prêtre ou un juif pratiquant quand il fait la bénédiction, récite la bénédiction sur le vin ou sur le pain, c'est remercier Dieu d'avoir donné un produit premier et de permettre à l'homme d'y ajouter son génie propre. Et c'est sur ces produits, vin et pain, que nous récitons la bénédiction, comme si nous disions le rite simplement de consommer du pain ou du vin ne prend son sens que s'il est reconnaissance. Reconnaissance de ce que Dieu nous permet d'apporter au monde. Nous devenons ainsi des co-gestionnaires du monde. Non pas simplement des consommateurs du monde que Dieu nous met à disposition, mais des co-gestionnaires du monde que Dieu nous donne. Et on voit l'importance aujourd'hui avec les questions d'écologie, lorsqu'on voit que dans la Genèse, par exemple, Dieu demande à Adam de gérer la terre, c'est-à-dire de la travailler et de la conserver. Ce simple fait de lui dire de la travailler et de la conserver, j'oserais presque parler de développement durable bien avant l'heure, où on voit donc que l'homme est le co-gestionnaire de ce qu'est la terre, avant même qu'on s'inquiète de la couche d'ozone. Ce temps, ce rite, ces rites, et en particulier les rites de la table, sont des temps, j'ai parlé tout à l'heure de commémoration, il serait plus juste de parler de remémoration. Le temps de la Pâque, par exemple, je prends cet exemple à dessein, n'est pas un temps où on se souvient que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, mais un temps où on se remet en situation d'enfermement, d'oppression. On mange du pain azim, c'est-à-dire du pain qui n'a pas eu le temps de lever, comme les Hébreux qui ont mangé un pain qui n'avait pas eu le temps de lever. Et on goûte même à l'amertume avec des herbes amères. Il faut vivre un jour ce temps du repas de Pâques, la Pâque juive. On mange, consomme des herbes amères pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage. On consomme même un genre de, ce qu'on compare au mortier, qui est fait, alors prenez des notes là pour la recette de cuisine, qui est fait avec des dattes, un peu de vin, des pommes écrasées, qui est doux. Parce qu'il y a même une sorte de douceur à l'esclavage, qui annihile, qui anesthésie la capacité de révolte des hommes. Et enfin, la fête, qui s'appelle en hébreu Pessah, qui est la contraction de deux mots, la bouche qui raconte. Le rituel de raconter une histoire. Comme le dit l'Exode, le livre de l'Exode, et tu le raconteras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Cette obligation de ritualiser la façon de raconter une histoire. Non pas simplement pour la vivre, mais pour la transmettre. C'est ce que disait Elie Wiesel, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et depuis 3500 ans, par la permanence de ces rites, le judaïsme ne trahit pas ses expériences. Le sel, qu'on retrouve dans toutes les religions, qui est l'élément le plus simple que Dieu donne à disposition de l'homme. Sans, cette fois-ci, sans aucun apport, contrairement au pain et au vin, le sel, c'est l'élément simple. Et même dans un élément simple, on va mettre du rite. On va tremper le pain dans le sel. Car sur le temple à Jérusalem, il n'y avait pas un sacrifice où il n'y avait pas un peu de sel. Pour rappeler aux hommes que tout l'apport qu'ils peuvent donner au monde ne remplace pas la chose simple que Dieu nous donne. En tout cas, voilà du sens qu'on greffe sur un rituel. Au début de l'année, nous avons une fête qui s'appelle le Nouvel An, Rosh Hashanah en hébreu, dans laquelle nous consommons du miel, des choses douces, pour que l'année soit douce. On pourrait simplement se souhaiter bonne année et souhaiter que l'année soit douce, mais nous consommons des éléments sucrés, de sorte de pouvoir nous mettre dans cette ritualisation et questionner les enfants. Tant le soir de Pâques que le soir du Nouvel An, l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que les enfants posent la question rituelle « Manishtana, quelle différence ?» Pourquoi, d'habitude, nous consommons du pain levé ou du pain sans levain, et cette fois-ci du pain sans levain exclusivement ? Pourquoi on mange d'habitude des choses sucrées, des choses salées, cette fois-ci que des choses sucrées ? L'histoire devient une ouverture pour comprendre le futur, puisque nous réexpérimentons les situations qu'ont pu vivre les Hébreux à tel ou tel moment. Et puis, je voudrais parler des rites incroyables d'une fête peu connue et très connue à la fois, qui s'appelle en hébreu Pourim, qui est l'équivalent du Mardi Gras, ce qui a donné le Mardi Gras. Pourim, c'est la fête construite après le sauvetage des Hébreux par la reine Esther et Mardoché dans le fameux livre d'Esther. Quelque chose de très contemporain, des méchants veulent tuer les Juifs. Alors, il n'y a pas une fois le nom de Dieu dans le livre du rouleau d'Esther, pas une fois. Donc c'est une façon de lire un texte comme si c'était une histoire avec des données objectives. Voilà. Il y a des tensions, il y a un roi faible, il y a un vizir très fort qui prend le pouvoir, et il y a la reine et Mardoché qui déjouent les complots. Quand les méchants sont éradiqués et que la situation est stable, Esther, la reine Esther, prend des décisions ritualisées. D'abord, elle instaure l'obligation de donner de l'argent aux pauvres. Si on traduisait ça aujourd'hui, on dirait que quand il y a des tensions sociales, il faut relier, il faut renouer du lien social, recréer la possibilité pour les gens de ne plus avoir à s'inquiéter pour leur lendemain. Ensuite, elle oblige, encore une fois, une ritualisation, les uns les autres à s'offrir des nourritures, des gâteaux, des bonbons, des boissons, du vin. C'est important, le vin. Et pourquoi c'est important le vin ? Parce que cette fête, on nous demande dans une ritualisation importante de boire jusqu'à ne plus savoir s'il faut bénir Mardoché ou maudire Mardoché. C'est la fête des masques, comme le Mardi Gras, parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Et ceux qui ont le masque de la proximité ne sont pas forcément ceux qui sont proches. Et inversement. Et puis, une fois qu'on s'est offert de la nourriture et du vin en particulier, elle a ritualisé l'obligation de faire un repas partagé. Une façon d'appeler les voisins à venir s'unir à ce repas et en fait à retisser du lien social. Le rite, c'est toujours le partage. Il n'est pas de rite solitaire. Le rite est toujours quelque chose qui partage et qui fait lien. Et ces mesures sociales, donner aux pauvres, c'est changer des cadeaux à manger, le repas partagé, c'est peut-être ce qui manque le plus à notre société. Et plus encore, dans un monde uniformisé où l'intégration à un groupe humain devient si difficile par défaut de groupe humain. En effet, tout rite particulier semble devenir aujourd'hui une insulte à cette obsession d'uniformisation. La mondialisation fait que les rites alimentaires sont les mêmes partout, que la pizza n'est plus l'apanage des Italiens, que le kebab n'est plus l'apanage des Turcs, et que le couscous n'est plus l'apanage des pays nord-africains, et qu'on retrouve les mêmes nourritures partout dans le monde, sans segmentation, sans différenciation. Cette uniformisation n'est pas ce que Dieu demande. La façon que le judaïsme a de vivre, ou que la religion juive a de vivre l'uniformisation, c'est un échec de l'humanité. On a un exemple frappant avec le passage de la tour de Babel dans la Genèse chapitre 11. Et ce fut sur la terre une seule langue et les mêmes paroles. Et les commentaires demandent si c'est la même langue, pourquoi les mêmes paroles, pourquoi répéter. Parce que, disent les commentateurs, il y avait une seule façon d'utiliser la langue. On dirait aujourd'hui que c'était la pensée unique. L'impossibilité de penser autrement. Qu'est-ce qui se passe ? Les hommes pensent tous la même façon. Ils sont donc les mêmes, des clones. Et puisqu'ils sont les mêmes, ils vont s'en prendre à celui qui est radicalement différent d'eux, c'est-à-dire Dieu. Ils construisent une tour pour aller combattre contre lui. Dieu se contente de mélanger leurs langues et de les disperser à la surface de la terre pour les forcer à retrouver la possibilité de faire du lien et d'aller dominer la différence de langue et la différence de lieu géographique pour former une humanité qui serait non pas uniforme, mais unitaire. Et l'unité ne se fonde que sur la différence. C'est vrai dans les couples, c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans les sociétés. L'unité, c'est l'inverse de l'uniformité, en réalité. Mais on peut noter de toute manière, en passant, qu'on peut construire un axiome très intéressant, surtout aujourd'hui, quand on compare avec la sanction que Dieu a opposée à la génération du déluge. Les hommes s'entretuaient, probablement au nom de Dieu. Ma façon de servir Dieu est la bonne, la tienne n'est pas bonne. Et ils s'entretuaient. Dieu a éradiqué cette humanité avec le déluge. En revanche, quand les hommes s'en prennent à Dieu lui-même, ils se contentent de mélanger leurs langues et les disperser. Donc on peut construire l'axiome suivant. Dieu préfère qu'on soit unis contre lui plutôt que désunis en son nom. Ce qui appelle beaucoup à méditer en ces temps où on semble oublier cette façon de construire une humanité. Et notre société aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de rites pour proposer l'intégration. Alors, est-ce que c'est l'intégration à la République dont parlait le président du Sénat, ou l'intégration à une communauté humaine ? Mais la religion, le mot religion vient du mot religere, qui veut dire relier. L'appel des religions est un appel à produire du sens entre les croyants. Si par bonheur ça peut produire du sens et du lien avec Dieu, c'est très bien. Mais le but, c'est de produire du sens et du lien entre les croyants. En rentrant dans la grande synagogue de Paris, rue de la Victoire, j'ai toujours été frappé d'une une chose étonnante. L'architecte a mis, lorsqu'on rentre dans la synagogue, on voit en haut, au-dessus, un verset de la Bible qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tous tes moyens, de toute ta possibilité, de toute ta foi. » Tu aimeras l'Éternel. Probablement, quand on rentre dans une synagogue, on cherche, ou dans un lieu de culte, on cherche à rencontrer Dieu, on cherche une aspiration à la transcendance, à s'élever. Mais quand on sort de la synagogue, rue de la Victoire, venez la visiter, on voit un verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme si on comprenait que vivre un moment dans un lieu de culte et chercher Dieu, c'est en arriver à la conclusion que les rites qu'on y produit doivent nous permettre de retrouver notre prochain. Et c'est la fonction des rites. Le rite produit de l'intégration parce qu'il produit du sens au lien que je veux partager avec l'autre, avec celui que je rencontre. Et c'est peut-être la plus belle des réponses à la question que posait Caïn. Lorsque Dieu lui demande où est ton frère, Caïn répond, je ne suis pas le gardien de mon frère. Entendu, j'ai rien à voir avec lui. Je n'ai pas de rite partagé, je n'ai rien à partager avec lui. Je n'ai même plus partagé la parole et je l'ai tué. Et bien plus tard dans la Genèse, Joseph, envoyé par son père Jacob à la recherche de ses frères, dit à un homme qu'il rencontre dans les champs, « Ce sont mes frères que je cherche. » Et c'est peut-être le sens même du rite. Joseph est l'homme des rêves et l'homme des rites expliqués. Des rêves transformés en rites qu'il explique. C'est peut-être le sens même d'une société. Et c'est ce que Dieu cherche à faire. Dieu nous pousse à rechercher l'unité et pas l'uniformité. Et pour ce faire, il nous faut réinventer des rites républicains, des rites de société, qui nous intègrent dans la vie et dans l'espérance commune de nos contemporains. Voici les quelques mots que je voulais partager avec vous avant d'entamer un dialogue que j'espère fécond.
C'est non seulement c'est lumineux, mais en plus c'est tout à fait d'actualité, je crois. Alors, avant de laisser la parole à mes confrères qui ne se sont pas encore complètement signalés, mais quand même, je commence par vous poser une ou deux questions. L'appartenance républicaine à laquelle justement notre secrétaire perpétuel a fait allusion tout à l'heure en citant cette lettre qui vient de nous arriver, c'est tout à fait d'actualité. Et nous tombons justement sur ce problème-là en parlant des rites. Je trouve assez pathétique de voir que on en est quasi pratiquement maintenant à supplier les enseignants de chanter la Marseillaise en cours, alors qu'il y a deux mois c'était considéré comme fasciste. Donc on a véritablement un problème avec l'intégration républicaine. Et à cet égard, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la critique des rites aujourd'hui, quoi, le dimanche par exemple, la critique du dimanche, comme si le dimanche c'était quelque chose qui n'avait plus aucun sens, que finalement c'était beaucoup plus important de gagner un peu plus d'argent, avoir un peu moins de chômage, pouvoir dépenser à ce moment-là plutôt que d'aller faire ses courses un autre jour. Donc c'est une critique des rites. Ou bien alors la réduction des rites à l'utile, vous en avez parlé, effectivement, les réduire complètement à l'utile. Est-ce que ça signifierait que s'efface ce que vous avez appelé les mythes qui donnent sens? Parce que vous avez raison de dire que les rites, ça n'est pas uniquement une chansonnette, c'est quelque chose qui a du sens. Et il y a des mythes derrière. Alors, est-ce que l'effacement des rites signifie qu'il y aurait effacement des mythes, des histoires qui donnent sens? Et par ailleurs, c'est la même chose. Vous avez dit que les mythes racontent l'histoire commune à travers les symboles, effectivement. Bon, les mythes et les symboles sont très proches. Est-ce que la critique des rites signifie que nous n'aimons plus l'histoire commune? Parce qu'au fond, c'est ça. C'est quand on n'aime plus une histoire commune qu'on n'a plus envie d'en parler, qu'on n'a plus envie de la rappeler, on n'a plus envie de la célébrer. Ou alors, peut-être on choisit certains thèmes, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Maintenant, je donne la parole à Jean-Robert Pitt.
Merci, Madame le Président. Merci, Monsieur le Grand Rabbin, cher confrère, de ces propos revigorants, de ce que vous avez dit des rituels. Vous êtes désormais membre d'une compagnie où on tente de donner du sens à des rituels et que ces rituels créent, je crois, du lien entre nous tous et, je pense, devraient nous donner une capacité plus grande à rayonner en dehors de ces murs. Mais vous allez nous aider à les respecter encore mieux et à leur donner davantage de sens. Alors, mais ma question, ne la prenez pas pour une provocation, mais vous avez au début de votre intervention parlé de la consommation du porc. Et il se trouve que j'ai un bon ami à l'université de Tel Aviv, que vous connaissez sans doute, qui est Israël Finkelstein, qui m'a envoyé très récemment des articles qu'il a publiés sur des fouilles archéologiques en Israël, donc datant plusieurs siècles avant notre ère, et où l'on trouve sur des sites de peuplement juif, des quantités d'ossements de porcs. Donc ça, c'est la première partie de ma question, ce qui veut dire que ça n'a pas toujours été un interdit au peuple d'Israël. Et puis, deuxième partie de ma question, comment réagit finalement un rabbin comme vous lorsqu'il lit l'évangile de Matthieu qui dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui est impur, mais c'est ce qui en sort ».
Merci. Alain Besançon.
Merci, Madame la Présidente.
Ah, j'ai oublié Monsieur Larosière.
Mais comment j'adhère?
Oui, merci Madame le Président. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que, depuis 50 ans, il y a une réconciliation entre les juifs et les chrétiens, et qu'en même temps, la déritualisation des chrétiens écarte des juifs. Et quand je pense à la déritualisation dans l'espace de ma vie qui commence à être long, nous avons vu disparaître la fête de la circoncision, qui était le 1er janvier, qui est remplacée par une fête de la Vierge. Nous avons vu les efforts des papes latins, enfin des papes de Rome, pour fixer la date de Pâques, et qui heureusement n'est pas passée, c'est toujours par rapport au 15 de Nisan. Mais nous avons vu disparaître pratiquement les jeûnes chrétiens, les jeûnes du vendredi, les jeûnes du carême, les jeûnes d'avant la communion. Bon, voilà. Et on rappelle quand même que saint Paul avait circoncis, c'est Barnabé ou c'est Tite, je ne sais pas, un de ses disciples qui était goy, hein. Peut-être Brague me souviendra, il l'avait circoncis simplement par égard pour les juifs. Donc la question de la circoncision, comme vous savez, est une question très conflictuelle dans le début de l'ère chrétienne. Merci.
Merci. Monsieur Jacques de la Rosière.
Oui, laissez-moi vous dire que j'ai été très, très impressionné par ce que vous avez dit et que j'ai ressenti des similarités, des sentiments en profondeur qui étaient aussi les miens, un homme qui est chrétien. Je voulais vous poser la question suivante. Les rites, et vous l'avez très bien montré, sont d'abord des manières d'exprimer par des symboles ou des habitudes, des pratiques, d'exprimer l'appartenance à une foi. Et de donner un sens, de rappeler le sens de cette foi. La deuxième chose, à mes yeux, qui le caractérise, c'est que le rite est public. C'est pas une secte cachée qui fait ça. C'est public, les églises sont ouvertes. Et on ne se cache pas de pratiquer les rites. La troisième chose, c'est qu'ils sont répétitifs, par définition. Ça revient avec le calendrier. Et la répétition est à mes yeux un élément important dans la pédagogie aussi du rituel religieux. Et la quatrième caractéristique, à mes yeux, c'est qu'on ne change pas le rite. Ce n'est pas un rabbin ou un prêtre qui va prendre la responsabilité de modifier des formules sacramentelles. Ou s'il le fait, il prend un chemin très dangereux et qui est condamné. Donc, il y a un élément de fixité dans le rite. Alors, quand on regarde la société moderne, d'abord, la foi tente à beaucoup disparaître. Donc, la première caractéristique, le rite, signe de foi, ce n'est pas quelque chose que tout le monde comprend. La deuxième chose, c'est le caractère public. Nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, dans une société uniformisée du fait de la mondialisation, et même les apparences d'une participation à un rituel ne sont pas bien admises dans une société même laïque. On peut le faire, mais dans une église, dans un temple, mais pas de procession dans la rue, on rogne le caractère public du rite. Le caractère répétitif est quelque chose qui est inhérent à la pratique religieuse et souvent l'objet du mépris des intellectuels. Pourquoi est-ce que vous le refaites ? Le caractère fixe est évidemment attentatoire à la liberté individuelle. Pourquoi vous soumettez-vous à un corps de rite si vous ne pouvez même pas le discuter, le changer à la marge ou même pas à la marge ? Alors, la question que je voulais vous poser, parce que c'est un peu long le préliminaire, mais la question est brève. Vous, en tant que rabbin, Est-ce que vous avez senti sur ces quatre caractéristiques que j'ai énoncées, est-ce que vous avez senti le poids social qui ne va pas dans le sens de l'intégration, là, mais le poids social, je dirais, de la critique de tout cela. Ça m'intéresserait de savoir votre... Parce que moi j'ai un avis en ce qui concerne la religion chrétienne. Et donc, je serais intéressé. Merci.
Merci, Madame le Président. Oui, je voulais poser deux questions qui, d'ailleurs, sont tout à fait reliées. Et qui porte surtout d'ailleurs sur l'idée des rites républicains possibles. Comment fait-on pour inventer un rite ? Parce qu'à l'accoutumée, un rite, c'est plutôt quelque chose que l'on reçoit, dont on ne pourrait pas dire qui l'a inventé exactement, sauf dans certains cas où ceux qui ont institué des rites sont des personnalités, pour dire le moins, absolument exceptionnelles. Enfin, je pense à l'Eucharistie, bien entendu. Enfin, est-il aussi difficile d'inventer un rite que d'inventer une langue, par exemple ? Une langue étant quelque chose que l'on reçoit et que l'on... à laquelle on peut impliquer un certain style, mais sans justement sortir de certaines règles qui la définissent comme telle. Et puis deuxième question, évidemment, tout à fait reliée, qui va dans le même sens, qui représente la seconde étape, pourrait-on dire, d'un même processus. Comment fait-on pour les rendre obligatoires une fois qu'on les a créés ? Un rite étant quelque chose dans l'accomplissement de quoi on ne saurait rire, comment éviter justement que d'éventuels rites républicains se retrouvent en première page de Charlie Hebdo.
Merci Rémi. Thierry de Montbrial.
Bien, moi aussi j'ai été très, très impressionné par cet exposé extraordinairement lumineux. Et je voudrais vous poser brièvement quatre questions qui d'ailleurs se relient un peu déjà à tout ce qui a été dit précédemment. Bon, première question, les rites, me semble-t-il, forment un système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un rite, indépendamment d'autres rites auxquels il se relie de façon systémique. Par conséquent, quand des rites disparaissent, en fait, c'est un système de rites qui disparaît. Et ça me fait penser, évidemment, au second principe de la thermodynamique. Quand on laisse tomber un verre et qu'on le casse, c'est facile, mais reconstruire le verre à partir des débris, c'est, probabilistiquement parlant, impossible. Et il me semble, de ce point de vue-là, que les Juifs sont probablement uniques dans l'histoire de l'humanité à avoir constamment lutté contre l'entropie. Alors donc, ma première question, c'est cette question de l'irréversibilité de système des rites quand ils se détruisent. C'est un peu l'inverse de la question de Rémi Brague, de la première des questions de Rémi Brague à l'instant. Alors, ma deuxième question, vous êtes un homme ouvert, chacun le sait, et de dialogue. Et je voudrais avoir votre avis sincère sur le christianisme de ce point de vue. Alors là, je rejoins un peu Alain Besançon, mais je le dirais autrement. Moi, au cours de ma vie, j'ai vu effectivement l'érosion, sinon la disparition, justement, du système des rites du christianisme. Ce qui renvoie à ma première question, c'est-à-dire le système qui se détruit. Et le pape François, que beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, admirons, elle ne paraît pas être un homme attaché au rite, justement. Alors, bon, Alors, ma question est assez terrible. De votre point de vue, le christianisme peut-il survivre ? Bon. Troisième question. Plus généralement, en dehors de la communauté juive, est-ce que vous voyez beaucoup d'exemples de communautés, nationales ou pas d'ailleurs, où les systèmes de rites restent vivants, entretenus? Est-ce que vous voyez beaucoup d'exemples? Bon, Non, mais mondialement. Je ne parle pas localement. Mondialement. Les armées, bon, peut-être pas. Alors, enfin, quatrième et dernière question qui rejoint aussi la première des questions de Rémi Brague. Je fais partie, je pense que nous sommes plusieurs ici, des gens qui adhèrent à la construction européenne comme une construction fondamentale probablement pour l'avenir de l'humanité. Bon. Et la construction européenne est fondée sur l'idée d'unité dans la diversité, justement. C'est dont vous avez fait un des cœurs de votre exposé. Mais ce qui manque clairement à l'Union européenne, c'est évidemment c'est des rites. Bon. Et là, on rejoint la première question de Rémi Brague, c'est-à-dire, est-ce que dans cette construction européenne qui est très compressée ou comprimée dans le temps, peut-on construire des rites qui, dans un temps relativement limité, et permettrait de construire un véritable sentiment d'appartenance.
Merci, Madame le Président. En réalité, mes confrères ont posé déjà beaucoup de questions sur les rites auxquels vous allez répondre. Et je voudrais donc simplement glisser sur l'intégration. Sur l'intégration, parce qu'au fond, on comprend très très bien le rôle, et vous l'avez parfaitement bien décrit, notamment de tous les rites alimentaires et les fêtes à rythme régulier, le rôle que ces rites jouent pour l'intégration dans une communauté. Ce qui est extraordinaire, c'est que par rapport à d'autres communautés, ça pourrait donc représenter une sorte d'affirmation d'une différence. Or, dans notre histoire française, la communauté juive a toujours été parfaitement intégrée à cette société monarchique ou républicaine. Et donc, parfaitement, avec naturellement des périodes plus difficiles que d'autres, mais ceci vaut pour toutes nos religions. Ce que j'aimerais que vous essayiez de nous dire, c'est en quoi le rythme qui intègre si bien les membres de la communauté juive n'ont pas été un obstacle à son intégration dans la société française, et même au contraire.
Merci. André Vacheron.
Merci, Madame le Président. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez parfaitement démontré le rôle du rite dans l'intégration et dans la transmission de la foi. Ma question est la suivante, c'est celle d'un médecin. En quoi la circoncision, un acte que nous considérons comme chirurgical, nous médecins, qui a été inventé par Abraham, en quoi la circoncision est-elle le signe de l'alliance de Dieu avec l'homme ?
Une question brève. Georges-Henri Soutou.
Madame le Président, merci. Nous savons gré au grand rabbin de nous avoir rappelé quelque chose peut-être d'élémentaire mais de fondamental, c'est que les rites renvoient à une religion ou à la religion, on peut là-dessus discuter. En effet, il y a une tendance universitaire à considérer les rites comme une caractéristique anthropologique, ce qui est en soi intéressant mais n'épuise peut-être pas la question, et il y a une tendance de la théologie catholique moderne depuis le 19e siècle, elle est considérée plutôt comme des symboles, ce qui non plus n'est pas faux évidemment, mais n'épuise peut-être pas non le problème. Je rappellerai que les églises d'Orient, elles, grecques, orthodoxes, restent totalement fidèles à leurs rites qui ont tous une profonde signification, même les plus modestes. Bon. Alors, je voudrais vous poser une question. J'ai parlé du mouvement d'une certaine théologie catholique ou protestante, mais aussi en considérant les rites comme des symboles dépassés ou secondaires. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un judaïsme libéral ? Est-ce qu'il a conservé la force qu'il a pu avoir à une certaine époque ? Où en est-on, à votre avis, à ce sujet maintenant ? Ou autre façon de dire la même chose, existe-t-il encore aujourd'hui une tension qui a pu exister, crois-je savoir, à certains moments dans les milieux israélites. Bon. Dernière remarque, question à la fois, c'est les deux si vous voulez. Est-ce que l'appartenance à la République, je préférerais pour ma part dire à la communauté nationale, qui a une histoire longue, alors que la République est récente. Est-ce que l'appartenance à la République ou à la communauté nationale, comme on voudra, est une religion ou peut devenir une religion? Et est-ce que, dans ce cas, la notion de rite républicain ou nationaux, bon, peu importe finalement, peut avoir exactement le même sens que lorsque l'on parle de rite religieux? Est-ce qu'on est sur le même plan ou pas? Cette dernière question n'est pas un jeu de mots, elle est à mes yeux absolument fondamentale. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de la République et au-dessus de la nation, bien entendu? Je vous remercie.
Merci. Philippe Levillain.
Merci Madame le Président. Cher Raïm Corsia, puisque nous sommes amis, je vous remercie de ce brillant exposé qui en plus nous a fourni un paysage extraordinaire, presque biblique, de ce qu'est l'histoire d'un grand peuple qui traverse toujours l'histoire avec ses difficultés, ses heurts, ses malheurs et votre éloquence. Je vais simplement me permettre de vous poser deux questions, une banale et l'autre moins banale. La question banale, c'est que vous avez beaucoup parlé des communautés. Comment est-ce que vous considérez que les communautés, renforcer les communautés, n'aboutissent pas au communautarisme? La question moins banale, mais vous en doutez parce que nous connaissons depuis 2005, et puisque aussi vous avez beaucoup cité les philosophes, beaucoup référé, vous êtes beaucoup référé à votre science. Je voudrais savoir quel est votre commentaire sur la phrase fameuse de Kierkegaard, la répétition, c'est la réminiscence à l'envers. Car elle traduit aussi, en vous écoutant avec attention, ce qu'est un peu l'histoire que vous avez racontée de votre destin et surtout de la religion qui traverse ce destin. Donc je répète, pouvez-vous m'expliquer ce que vous pensez, vous, de cette phrase de Kierkegaard, la répétition, c'est la réminiscence à l'envers? Merci.
Merci. Jean-Claude Trichet.
Merci, Madame le Président. Monsieur le Grand Rabbin, comme tous nos collègues, je vous ai écouté avec extrême attention et en étant très impressionné, j'ai une seule question portant sur le rite. Pascal devait demander aux catholiques de respecter strictement les rites, même s'ils avaient perdu la foi, partiellement ou totalement, en expliquant que c'était par le respect du rite que l'on retrouvait la foi. Et il me semble que, d'une certaine manière, c'est aussi un peu le même message que vous nous avez adressé. Le rite assure la permanence de la croyance. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'insincérité? Et pour revenir sur ce que nous avons tous observé dans nos vies, à savoir l'abandon progressif de beaucoup de rites par la religion catholique, je ne sais pas si on peut dire la même chose du protestantisme, et peut-être avoir poussé la lutte contre l'insincérité jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à l'évaporation même d'une partie, en tout cas, des fidèles. C'est ma question.
Merci beaucoup. Pierre Delvolvé.
Monsieur le Grand Rabbin, nous avons tous apprécié la finesse de vos analyses sur la notion de rite, mais je voudrais essayer de prolonger avec vous cette analyse sur les rapports entre rite, croyance et usage. Vous l'avez dit, ça a été répété, il y a un lien étroit entre rite et croyance. Mais à partir d'un certain stade, le rite se transforme en un certain usage déconnecté, si j'ose dire, de la croyance. Et nous en avons un exemple avec ceux que vous avez évoqués, notamment le dimanche. Le dimanche est d'abord un rite religieux. Et il est devenu un usage, bien des gens pratiquent le dimanche, des activités variées, un costume différent, sans avoir plus aucune relation entre ces pratiques et le culte divin. Et à partir du moment où le rite se transforme simplement en un usage, il est beaucoup plus facile de le remettre en cause. C'est ce que nous voyons notamment avec ce qui se passe, vous l'avez évoqué, à propos du travail le dimanche. On pourrait en dire autant avec d'autres fêtes religieuses qui n'ont plus pour beaucoup aucun sens religieux, je pense notamment à Noël, à Pâques, au 15 août même, auxquels les Français sont attachés, mais auxquels la plupart des Français n'attachent aucune valeur religieuse. Et à partir du moment où le rite n'est plus un lien, n'est plus en lien avec la croyance, il devient un usage qui se perpétue par la force du temps, mais qui se démonétise, si je peux dire, qui devient de moins en moins fort, et qui peut alors se transformer, être supprimé et disparaître. Je crois qu'il y a un élément important dans cette considération pour l'explication de la transformation de certaines règles, de certains comportements et de certaines dispositions législatives.
Merci. Michel Pébreau.
Merci, Madame le Président. Monsieur le Grand Rabbin, j'ai été également passionné par votre exposé. Je voulais vous essayer d'utiliser votre compétence de grand aumônier des armées pour répondre à une question qu'a soulevée déjà notre confrère Soutou. Y a-t-il des rites républicains ou des rites nationaux ou des rites laïques? C'est-à-dire, ce concept de rite existe-t-il à ce niveau? Et a-t-il évolué dans le temps? C'est-à-dire, ces rites ont-ils existé, n'existent-ils plus? Je pense par exemple à la Marseillaise, qu'un de nos ministres, je crois, ne chante pas. Il l'a dit en tout cas. Donc je pense à la Marseillaise, je pense au drapeau, naturellement, avec le service militaire. Sans parler de toute autre forme de rite qui était acquis dans le passé, à l'école ou aux armées. Merci.
Merci. Enfin, la dernière question pour Alain Duhamel.
Merci Madame, Monsieur le Président, Monsieur le Grand Rabbin, surtout. On a fait beaucoup de références au catholicisme par rapport au judaïsme, et je voulais me poser devant vous la question de savoir si le protestantisme, qui est peut-être une religion qui a une conception plus minimaliste des rites, en tout cas plus multiples, ce qui d'une certaine manière en revient au même d'une église à l'autre, vous paraît avoir des relations plus difficiles avec la foi que les religions dans lesquelles les rites sont tellement visibles.
Merci beaucoup. Alors, je vous laisse répondre comme vous l'entendez. Vous pouvez grouper les questions. Vous avez une bonne demi-heure.
Vraiment, merci beaucoup d'avoir développé ce que j'ai posé pratiquement en introduction, parce que vos questions montrent l'ampleur de la tâche, en fait, à réfléchir sur cette question du... Et comme vous le disiez, Madame le Président... des mythes. Et je crois qu'il y a une clé d'interprétation évidente de la perte de rites dans notre société, et avec une part de responsabilité de l'Église qui a pris ce chemin volontairement. Après, il faudrait voir pourquoi, comment. On va en parler au fur et à mesure. Mais je crois qu'évidemment, le rite implique de partager une histoire commune. Et puisqu'on veut fabriquer un homme nouveau, il faut le couper de ses racines. Ce qui est un danger terrifiant. Et c'est en cela que le judaïsme s'est toujours opposé à perdre ses racines, à perdre son histoire. L'histoire du judaïsme se résume à cela. Certains veulent nous faire oublier l'alliance, et nous, on maintient l'alliance. Je maintiendrai. Ce n'est pas qu'une devise, c'est un engagement qui est au cœur de ce qu'est la transmission. Je crois que effectivement, parler de République, c'est aussi parler de France. Et la France, elle est multiséculaire. Cette histoire s'est transmise. J'étais rabbin à Reims, et certains s'étaient élevés contre la venue du pape à Reims en 1996. Ils avaient juste un nom rigolo, il s'appelait... C'était un groupuscule, de plusieurs groupuscules, qui s'appelait Vadéretro Papanas. Alors, au moins, ils avaient un nom rigolo. J'avais bien entendu refusé de m'associer à eux, alors qu'eux voulaient associer le rabbin que j'étais dans l'idée de défendre le principe sacré à leurs yeux que la France n'est pas chrétienne. Et donc, rappeler, commémorer le baptême de Clovis, ça serait céder à une Il y a une négation de la laïcité de la France. Je dis, vous êtes à côté de la plaque. Le pape sait parfaitement qu'il vient dans un pays plurireligieux. La meilleure des preuves, c'est qu'il va le dire. Et donc j'ai écrit à sa sainteté, très Saint-Père, vous venez à Reims, il se trouve que vous venez le 22 septembre 96, il se trouve que c'est la veille de Kippour. Si vous disiez dans votre homélie « Bon jeûne et bonne fête aux Juifs qui entrent dans le jour sacré de Kippour, leur prière est importante pour nous », en gros, ça clouerait le bec de tous les vadérétro papanassiens en question. C'est ce qu'il a fait. Et le pape, enfin son secrétariat, me répond en me disant « Le très Saint-Père a reçu vos bénédictions, hein, il dira les mots que vous proposez ». Moi, j'ai appelé l'archevêque de Reims en lui disant « Si le pape dit ce que j'ai suggéré, j'assiste à la messe ». Et donc j'étais sur notre base aérienne, le général connaît parfaitement cette base de Reims, lui qui a commandé la FATAC. Donc le pape est sur un lieu parfaitement républicain, une base aérienne n'est pas plus républicain qu'une base aérienne, et il prononce ces mots qui sont le cœur même de ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire, la foi des uns est importante pour les autres et on vit ça ensemble. Et donc l'idée c'est, on plonge nos racines dans notre histoire commune. Et c'est ces racines qui peuvent nous permettre de réinterpréter le futur qu'on a à vivre en commun. Donc oui, encourager des rites, c'est encourager l'histoire. Et mythifier cette histoire commune. Oui, Jeanne d'Arc, c'est important, c'est mythifié. C'est important de le voir comme une part de notre histoire. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais Charles Martel, c'est important. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais Roncevaux, Roland Roncevaux, c'est important. Ça peut plaire ou ne pas plaire de présenter Louis XI comme un roi qui a enfermé ses prisonniers dans des petites geôles. Quand on était petit à l'école, on voyait ça, on se disait quel roi terrible. Un grand roi qui a fait la France à peu près dans le format qu'elle a. Louis IX, voilà, c'est mon histoire aussi. D'aucuns vont l'appeler Saint-Louis. Je pense qu'on peut trouver des rois un peu plus philosémites. Mais il n'empêche que c'est aussi mon roi, au sens que c'est mon histoire. Et s'approprier cette histoire, quant à Philippe le Bel, dont j'entends le nom avec bonheur à côté, lui c'était un malin, Philippe le Bel. Philippe le Bel, lui, expulsait les Juifs pour ne plus avoir de dettes, et puisqu'il leur disait, il n'y a plus de dettes, non, on va partir. Vous n'êtes pas obligé de partir. Donc Philippe le Bel avait trouvé le moyen d'expulser sans expulser. Enfin, d'expulser la dette sans expulser les banquiers. Ce qui est une bonne méthode, l'inverse de ce que fait la Grèce à peu près. Cher professeur, sur les fouilles archéologiques, qu'il y ait des ossements de porc, ça prouve qu'ils faisaient les choses sans contrôle rabbinique. Mais je crois que ce qui est important dans cette idée que Mathieu reprend, ce qui est important, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, c'est ce qui en sort. Justement, le judaïsme ne fait pas l'un ou l'autre. Il fait et l'un et l'autre. C'est contrôle ta nourriture. La première chose que Dieu demande à l'homme, c'est, dans l'histoire, dans la Bible en tout cas, de tout ce qu'il y a dans le jardin, mange. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Autrement dit, la première chose, c'est, tu peux tout prendre, mais il faut que tu mettes une limite. Et donc l'idée des limites alimentaires, c'est l'idée de s'auto-limiter. C'est l'idée de ne pas être un loup pour tout l'environnement. C'est-à-dire, un carnassier, quelqu'un qui n'est qu'un consommateur. C'est les limites. C'est les rites que nous partageons tous lorsque nous sommes à table. Est-ce que vous aimez manger, déjeuner, dîner avec quelqu'un qui mange comme un gougnafier ou comme un je sais pas, sans aucun rituel, qui plongerait ses doigts dans la sauce. Enfin, vous supporteriez pas. Ce sont des rites inconscients. J'ose pas dire devant notre ami Jean-Robert Pitt. Si quelqu'un osait prendre du vin blanc avec du fromage, quelle hérésie! Non mais il sait bien que je n'ai aucune compétence dans le vin. Ça, c'est mon épouse qui s'en occupe. Mais on voit bien qu'il y a des ritualisations, des repas, qui sont aussi une façon de vivre des choses en commun. En fait, pour polisser quelque chose qui est profondément bestial, manger, c'est un peu bestial, on police cela par de la ritualisation. Professeur, oui, il y a un vrai souci sur la déchristianisation c'est-à-dire la déritualisation des chrétiens et la déchristianisation des liens entre le judaïsme et le christianisme, puisque si le judaïsme reste ancré dans les rites, dans la loi, un mouvement qui s'en éloignerait n'arriverait pas à faire lien. Or, le génie du christianisme, c'est d'avoir posé Vatican II qui reparle des liens forts avec le judaïsme et qui pousse les chrétiens, ayant leur foi, à rechercher ce qu'était le judaïsme. J'ai animé des dizaines de groupes de réflexion, notamment avec des séminaristes lorsque j'étais à Reims, sur l'interprétation des textes dans le judaïsme. Et cette recherche du rite et du sens que nous y apportons est une façon pour les chrétiens de retrouver leurs origines. Ce que fait, j'anticipe sur ma dernière réponse, ce que font les protestants dans le retour au texte. Le retour premier au texte qui donne le cheminement de la pensée. Le jeûne, par exemple, vous avez tout à fait raison d'avoir pris ces deux exemples, professeur. Le jeûne, c'est étonnant que si vous demandez qui fait un jeûne dans la société française, on vous dira les musulmans pour le ramadan. C'est le seul jeûne dont les journaux télévisés parlent. Autrement dit, c'est la seule chose qui existe. Que nous ayons le grand pardon, un jour ça compte pas, qu'il y ait quelques jeûnes dans le christianisme, tout le monde a oublié, les seuls qui font le jeûne sont les musulmans. Il faut impérativement qu'on revitalise ces rites pour leur redonner du sens, et je répondrai clairement comment on fait. Le 1er janvier, vraiment, je vous remercie d'avoir parlé de ceci, parce que j'ai parlé de circoncision. Un enfant qui naîtrait le 25 décembre célèbre sa circoncision 8 jours plus tard, le 1er janvier. C'est dommage que dans les calendriers officiels, il y ait jour de l'an, au lieu de marquer circoncision. Ce qui obligerait les croyants chrétiens, et les non-croyants, mais en tout cas ceux qui lisent de temps en temps un calendrier, à se poser la question du sens. Et peut-être que le rite, c'est éveiller une curiosité, comme j'en ai parlé à propos de la soirée de Pâques dans le judaïsme. Éveiller la curiosité des enfants, quelle différence entre ce jour et les autres jours ? Président, vous avez vraiment touché juste sur le côté répétitif du rite. Le rite ne peut pas être un one-shot, une seule occurrence, un psaume qui dit ça, le psaume 24, qui peut monter sur la montagne de l'Éternel et qui peut rester à l'endroit de sa sainteté. Monter sur la montagne de l'Éternel, tout le monde peut le faire une fois. Tout le monde, une fois, peut faire quelque chose. Mais rester à l'endroit de sa sainteté, cette répétition, cette façon de s'ancrer dans une ritualisation du rite, c'est-à-dire une répétition qui n'amène pas, comme je dirais dans quelques instants, à une banalisation du geste, à une déconnexion de la foi, mais qui amène à se questionner fois après fois sur le sens qu'on y accorde. Et vous verrez que, vous savez très bien, que certains rites, disons pour un chrétien, parce que vous avez parlé de votre foi chrétienne, vous allez à la messe, parfois par habitude, parfois pour accompagner quelqu'un, parfois parce que vous en avez le besoin, et parfois parce que vous voulez vous retrouver. Est-ce que quand vous accompagnez quelqu'un, c'est moins bien que quand vous voulez vous retrouver ou vous parler? C'est complémentaire, c'est différent. L'idée, c'est que l'engagement d'un rituel, c'est accepter de ne pas dépendre exclusivement de notre raison. Et c'est peut-être ça la plus grande des intelligences, c'est de ne pas avoir l'orgueil de penser que je suis seul à décider. Je m'inscris dans un rite, et ce rite, je l'accomplis jusqu'à ce que je lui trouve du sens. C'est ce qu'ont dit les Hébreux. Voilà pourquoi votre question est essentielle. J'aurais peut-être dû le dire de manière initiale. Les Hébreux, en acceptant les 10 commandements au pied du mont Sinaï, disent deux mots, vous me permettrez de les dire en hébreu, mais professeur Braque pourra vous les traduire aisément. Les Hébreux ont dit « Naase venishma ». Nous allons accomplir et nous allons comprendre. Alors que l'humain considère qu'il doit accomplir que ce qu'il comprend, l'homme ou la femme de foi accomplit, et dans cet accomplissement, il trouve une compréhension. Et c'est le cœur même de la ritualisation que propose le judaïsme, et cette répétition, vous avez absolument raison, qui est une pédagogie. Et donc évidemment, changer le rite, c'est nier le sens qu'on doit trouver. Mon maître disait, si tu lis un verset de la Bible et que tu ne le comprends pas, qu'il ne t'apporte rien, c'est que tu l'as mal lu, relis-le. J'aurais pu considérer, je ne l'ai pas lu, je ne le comprends pas, il ne me dit rien, on l'élimine. Relis-le. jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te parle. Et c'est la même façon dont on peut rentrer ces rites. Mais je parlais tout à l'heure des rites de table. Mais est-ce qu'une société ne vit pas aussi avec des rites non écrits, par exemple, malheureusement? Qui se lève maintenant devant une femme dans le métro, qui se lève devant une personne âgée? Ce sont des rites de société qui sont quelque chose de nécessaire pour huiler les rapports humains. C'est un style du respect. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes en réalité le produit de rites sociaux qu'on veut nier, qu'on veut gommer, qu'on veut oublier, oblitérer, mais qui sont le cœur de ce qui fait société pour nous. Et le poids social, notamment un chercheur, je dirais que c'est un jaune de 63, un peu plus ancien, Claude Rivelin, professeur, un rouge de 56, Claude Rivelin a travaillé sur les rites dans les entreprises. Il a expliqué un jour qu'il y a des banques en France, alors il faudrait voir les spécialistes des banques, il y a une banque où les gens s'embrassent le matin en arrivant, et quand quelqu'un quitte cette banque et va dans une autre banque, et ça lui change la vie. C'est-à-dire que les premiers gestes sont difficiles. Il a expliqué, par exemple, sur les études de Hall, qui explique la distance que les rites instillent entre les personnes. Il y a des pays comme au Brésil où vous êtes très proche quand vous parlez de quelqu'un, des pays comme l'Angleterre où vous devez vous tenir à distance de la personne, l'Amérique, la France, il y a des distances induites par l'habitude, les rites de société, et il a travaillé sur les rites dans l'entreprise. Donc, vous avez raison, c'est une donnée sociale. Est-ce que vraiment, chez Disney, par exemple, je ne pourrais pas travailler chez Disney? À moins de faire le capitaine Haddock, et encore, parce que j'ai une barbe et une moustache. Et chez Disney, pour travailler chez Disney, on ne peut pas avoir de barbe ni de moustache. C'est la règle que Disney avait décrétée, actuellement encore. Et ça donne des procès devant les prud'hommes incroyables, parce que, voilà. Est-ce que c'est un rite, une habitude? En tout cas, ça fait de société. Cher professeur, peut-être la question la plus compliquée, mais en même temps la plus simple. Comment inventer un rite alors qu'on le reçoit? Je pourrais vous donner un exemple parce que j'ai participé, grâce à Dieu, il y a quelques jours. J'ai participé à la remise du décret de naturalisation de ce jeune malien, français maintenant, Lassana. Ce jeune qui a sauvé une vingtaine de clients de cet hypermarché cachère à Vincennes. Vous savez très bien, monsieur le ministre, comment se passe un décret de naturalisation? C'est un décret signé, point barre, un jour on reçoit un papier, et puis un jour ils sont, voilà, vous êtes français. Mais si on mettait du sacré dans cette remise, si on habillait cela de quelque chose qui rende l'instant solennel, parce qu'on n'acquiert pas la nationalité française comme on obtient une aide quelconque ou quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui nous fait entrer dans une histoire, madame, et dans un rêve. Et donc, j'ai vécu à quel point ça pouvait être important. Une remise de médaille, une espérance, un discours pour dire quelque chose, pour ne pas être simplement victime du choix des autres, mais pour dire « je m'engage ». De la même façon que dans une communion, le jeune communiant s'engage, dit quelque chose. Donc on voit qu'on est capable d'inventer des rites républicains. J'oserais vous parler d'un rite qui m'a beaucoup plus touché. Nous, les militaires, on sait bien à quel point on est malheureux quand la nation ne comprend pas notre souffrance quand on perd des camarades. Et nous avons mis en place, il y a 4 ans, 5 ans, après Ouzbin, on a eu un temps d'adaptation. Ouzbin, c'était une attaque où on a perdu 10 personnes, 10 soldats en Afghanistan. On a mis en place un système qui consiste à faire passer systématiquement les corps des militaires sur le pont Alexandre III avant de se rendre aux Invalides. Et on mobilise la foule, plus ou moins, les porte-drapeaux, les associations patriotiques, le Souvenir français dont je suis administrateur, sur le pont Alexandre III pour faire une haie d'honneur aux militaires qui rentrent pour la cérémonie, au corps des militaires qui rentrent pour la cérémonie d'hommage national aux Invalides. C'est donc un rituel nouveau qui consiste à dire on va essayer d'ouvrir, de faire partager ce moment d'union nationale. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est l'union nationale où il y a 150, 200 pèlerins sur le pont? Mais ils sont là, avec les drapeaux, et plus ou moins tant ou tant de personnes. Je ne sais pas si certains ont souvenir de la cérémonie terrifiante porte de Champéret devant la caserne des pompiers, l'état-major des pompiers de Paris, suite à la mort de 7 pompiers il y a une quinzaine d'années à Neuilly. Il y avait une immense mobilisation parce que les pompiers sont dans le quotidien des Français et des Parisiens et des Parisiennes. Donc, oui, il faut trouver comment réinventer le récit national pour faire des rites qui font sens. Vous parliez à juste titre, madame, de la Marseillaise qui donne plus le sentiment d'être fasciste qu'on va la proposer à chanter dans les écoles. C'est un très beau moment qu'on pourrait imaginer. Tout comme dans nos synagogues, nous récitons la prière pour la République. Et comme j'ai poussé la semaine dernière nos amis musulmans à réciter une prière pour la République dans leur mosquée les vendredis. Je pense qu'on peut réinventer du rite commun. Il suffit de voir à quel point on peut trouver du rite, je l'ai dit tout à l'heure, dans les familles, dans la vie de tous les jours. Monsieur le Président, oui, c'est vrai. Le rite, c'est un système. Il ne peut pas y avoir un rite isolé. Sauf parfois, et c'est très émouvant. Je connais des familles portugaises, catholiques, romaines, apostoliques, qui ont gardé un geste incroyable. Qui ont gardé le geste d'allumer le vendredi une bougie dans une armoire. Elles mettaient une petite veilleuse dans une armoire. Qu'est-ce que c'était ? Une réminiscence, vous voyez que je prépare déjà ma réponse, professeur, une réminiscence de l'obligation faite aux femmes juives d'allumer les bougies tous les vendredis soirs à l'entrée du Shabbat. Mais comme c'était des familles maranes qui ne pouvaient plus pratiquer le judaïsme ouvertement, ils ont gardé et ils ont transmis surtout le rituel de le faire de façon cachée et détournée. Et c'est peut-être la seule trace de judaïsme comme de l'homéopathie qui reste chez ces pratiquants. Et c'est peut-être cette trace homéopathique qui fait qu'ils gardent encore une trace de leur histoire partagée avec le peuple juif. Mais oui, le rite est forcément un système. Et qui dit système, dit qu'il est irréversible. C'est-à-dire que, et vous avez parfaitement posé la question sur le christianisme, qui lui aussi s'est éloigné du rite, mais comment réenchanter ce rite ? Réenchanter le rite, je vais vous donner un exemple, si vous voulez, comme réponse. J'ai un de mes amis prêtre en Vendée qui est très proche et je trouvais génialissime ce qu'il fait pendant le carême. D'abord, il a remis au goût du jour le carême, le fait de jeûner. Mais pas jeûner pour jeûner, jeûner pour prendre ce temps du repas et faire venir les fidèles et étudier un texte biblique en Notre-Dame, enfin, il était au Sable d'Olonne à l'époque, ensuite il est parti à Fontenay-le-Comte, et maintenant il est vers Angers, un peu avant, après Angers, mais en Vendée. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a expliqué à ses fidèles que le carême moderne, écoutez comment c'est génial, dans la nouvelle ritualisation, le carême moderne sera un carême télévisuel. Pendant le temps du carême, arrêtez de regarder la télé. Lisez les journaux, écoutez la radio, il n'a pas dit le contraire. Mais arrêtez de regarder la télé, consacrez ce temps à la lecture, à votre famille, à la parole échangée avec les vôtres. Et je trouvais que c'était une façon intelligente de réenchanter le rite du carême. Donc, c'est une question de vision, et ces prêtres, je ne pense pas que mon ami le père Olivier est isolé, je pense simplement que... Je crois que le christianisme va trouver comment s'adapter, oui, adapter ses rites, parce qu'il aura besoin de nouveaux rites. Parce que les charismatiques qui viennent percuter le catholicisme, surtout le protestantisme un peu moins, parce qu'ils sont dans... Les charismatiques qui ont multiplié les rites et les rituels vont pousser l'Église à réinvestir le champ du rite. Et donc probablement la société à se repenser dans un temps de rite. L'Europe, vous avez absolument raison, et ça c'est un drame. Est-ce que quelqu'un a envie de se mettre au garde à vous quand vous entendez la symphonie de Beethoven ? C'est un beau morceau de musique, mais vous ne mettez pas au garde à vous comme quand vous entendez la Marseillaise. Si brusquement quelqu'un d'entre nous chantait la Marseillaise, tout le monde se lèverait. S'il y avait l'hymne européen, pas encore. Donc il y a encore du chemin à faire. Il faudra trouver je crois, des rituels communs à tous les pays d'Europe pour partager cette espérance. C'est le rite qui crée la communauté, qui crée l'intégration. L'intégration. Votre question, cher maître. Et c'est vrai que le judaïsme s'est toujours parfaitement intégré, peut-être justement grâce à ces rites. Parce que ces rites ne se construisent pas contre un autre groupe. Ils se construisent pour faire lien, et comme on le dit le soir de Pâques, quiconque a faim vienne et partage, vienne et mange. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une logique, de conversion, de recherche, de prosélytisme, mais nous ne sommes pas dans une logique de rupture. Et donc par nature, on s'inclut dans un modèle français qui est un modèle inclusif. On s'intègre dans un modèle qui est un modèle inclusif. Professeur, sur la circoncision, un peu compliqué. J'oserais vous dire qu'il y a deux mots pour la circoncision. Moi, je parlais de circoncision, et vous me posiez la question sur l'ablation du prépuce, ce qui est différent. La circoncision a une vocation spirituelle. L'ablation du prépuce, c'est un geste technique, technique qui peut avoir d'autres raisons. Phimosis, ça, vous êtes beaucoup plus avancé que moi. Mais pour revenir sur la question, je pourrais vous dire que justement un acte de foi n'a pas à se justifier. C'est-à-dire, me demander pourquoi, c'est limiter ce geste à la raison que je vais vous en donner, alors que par nature, je ne sais pas pourquoi Dieu a demandé, je ne suis pas encore le secrétaire du bon Dieu, et pas pressé de l'être, mais le sens, disons, profond, la circoncision, si on le renvoie d'ailleurs à l'interprétation qu'en fait Paul, c'est l'omnipotence de l'homme qui s'efface devant l'omnipotence de Dieu. Je ne peux pas tout. Ce symbole phallique, il est limité. Il n'est pas complet. L'homme n'est pas dans une croyance de perfection absolue. Il a encore à se perfectionner. Et d'ailleurs, on voit bien que dans le judaïsme ou dans le christianisme, Moïse ou Jésus naissent déjà circoncis. Comme si eux naissaient déjà dans une perfection qu'ils n'avaient plus qu'à concrétiser. Même s'il y a la circoncision. Non, il y a la circoncision dans le christianisme, mais dans certaines interprétations, il naît circoncis, puisque c'est le Messie, que le Messie naît déjà circoncis. Mais ça, on en parlera. Juste, puisque vous parlez de ça, la circoncision, par exemple, de quelqu'un qui naîtrait déjà circoncis, il y a malgré tout l'alliance avec une petite goutte de sang qui est le sang de l'alliance. Il y a donc cette notion d'alliance dans la circoncision, qui est à la fois la limitation de l'homme dans son omnipotence et l'alliance, la même que celle d'Abraham. La question du professeur Soutou sur le judaïsme libéral est très juste. Je crois qu'il y a, chez certains, l'impossibilité de s'accepter dans des rites qu'ils ne comprennent pas. Or, par nature, je pense que la foi ne peut pas toujours être dans la raison. Je pense que la raison pondère la foi et la foi pondère les excès de la raison. Je parlais des anniversaires de mariage. Si quelqu'un se marie et qu'il dit à sa femme « viens » ou sa femme demande à son mari, c'est réflexif. Ou, c'est déjà qu'elle n'a plus confiance. Si vous demandez une explication, c'est que vous n'êtes pas dans la confiance. Et donc, limiter le rite à ce qu'on comprend, c'est ne plus être dans la logique de « naase venishma ». On va accomplir et on va entendre, chercher du sens que les Hébreux ont prononcé au pied du mont Sinaï. Donc, c'est le choix du judaïsme libéral de poser face au rite la raison. Alors moi, je vous mets au défi d'accomplir un seul rite logique. Il n'y a pas un seul rite qui est logique, pas un seul. C'est parce que chaque chose peut se discuter. Même honore ton père et ta mère, est-ce que c'est une loi, un rite? Comment on honore son père et sa mère? Ça, c'est du rite. On se lève devant ses parents, on ne s'assoit pas à leur place. C'est un rite, pas une loi. Donc, quelle est la limite? Si on en revient à contester un rite, alors on conteste tout le système. Et dès que vous contestez l'un des rites sous prétexte qu'il n'est plus à la mode, par nature, vous dites que tout le système est démodable. Or, ce qui n'est pas à la mode est indémodable. Et justement, c'est la force du message biblique de ne pas être soumis aux aléas de la mode et aux aléas du temps, parce que c'est la parole divine. Mais, je précise tout de même, et là, c'est, vous étendiez cela au rite républicain, que la force du judaïsme, c'est d'avoir toujours ajouté à la loi orale, c'est-à-dire l'interprétation, ce qui manque à certaines autres religions. Et le judaïsme, lui, interprète, ne change pas le rite, qui est à la fois un système et qui est intouchable, mais l'interprète. Et des rites qui étaient faits pour telle ou telle raison, alors bien sûr, on me dit, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avant, on faisait ça. Des fois, des rites incroyables. On nous dit, ben, c'est normal, parce qu'à telle époque, on faisait comme ci, à telle époque, on faisait comme ça. Peu importe. Ce rite, maintenant, fait sens pour tout le monde, comme étant un rite judaïque. Pourquoi on casse un verre pour les mariages? Vous savez que dans les mariages juifs, on casse un verre. Pourquoi? Certains vous diraient, parce que depuis la destruction du temple, il n'est plus possible d'avoir une joie complète. Et donc on brise un verre pour se rappeler que le temple est détruit. Mon interprétation, c'est qu'en même temps, c'est une façon de dire, vous êtes heureux, on espère au moins que les mariés sont heureux au moins le premier jour sous le lit nuptial, vous êtes heureux pour l'instant. Vous avez donc une responsabilité à instiller le bonheur à l'extérieur du monde. Parce qu'être heureux quand les autres sont malheureux, c'est pas marrant. C'est une responsabilité. Et on va réinterpréter un geste qui, en réalité, est un geste qui a peut-être une autre origine. On a donné un sens à un geste qui, peut-être, vient simplement parce qu'un jour, un rabbin a fait tomber son verre par inadvertance et il a dit, c'est beau, c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si, Madame le Président, si on, je peux raconter une toute petite histoire, parce que je suis dans les temps, là, encore.
Mais... Oui, vous êtes dans les temps.
C'est, j'ose une histoire, mais je veux dire, un rabbin ne peut pas ne pas raconter une histoire juive. C'est, on vient voir un rabbin, les fidèles viennent voir un rabbin pour savoir est-ce qu'il faut se lever pendant la lecture du schéma, un passage important du rituel, ou est-ce qu'il faut s'asseoir. Donc il y a deux groupes qui viennent voir le rabbin, un vieux rabbin, un vieux maître. Et les premiers disent, Rabbi, est-ce qu'il faut s'asseoir? Rabbi dit, pas vraiment. Alors les autres sont contents, ils disent, Rabbi, donc c'est nous qui avons raison, il faut se lever. Il leur dit, pas vraiment. Alors, quelle est la règle? Et il commence à se bagarrer. Il dit, voilà, c'est ça la tradition. C'est, voilà, c'est la discussion. C'est que parfois, la tradition n'est pas monolithique. Elle est dans, peu importe s'il faut se lever ou s'asseoir, elle est dans la réflexion sur ce qu'il faut se lever ou s'asseoir. En tout cas, ne pas être comme un benêt au moment de cette prière et pas savoir quoi faire. Certains ont l'habitude de se lever, d'autres ont l'habitude de s'asseoir. Et on voit comment on harmonise les choses à un moment donné, dans un lieu donné. Cher professeur, évidemment, la question de communauté qui peut aller jusqu'au communautarisme. Sauf que c'est toujours l'idée que rien ne se fait dans la communauté juive, dans ce qui est vécu dans un système religieux, contre d'autres. Il se fait dans un partage d'espérance qui est défini par le prophète Isaïe, chapitre 57, car ma maison 56 ou 7.
56 et demi.
Voilà, en de ne corriger des variations saisonnières, je crois que c'est 57. Et ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc quand vous êtes dans cette logique, vous ne pouvez pas vous penser contre les autres. Et donc cette communauté est une communauté qui est en même temps inclue dans une communauté qui est plus vaste, qui s'appelle la communauté nationale, puisqu'elle n'est pas fermée à tout ce qui se fait dans le monde, dans la société. Et la répétition est évidemment la réminiscence à l'envers, parce que le Talmud dit, il n'y a aucun rapport entre celui qui étudie 100 fois un texte et celui qui étudie 101 fois le même texte. Comment c'est possible? Tout simplement parce que entre la 100e et la 101e fois, vous avez vécu des expériences qui vous le font comprendre différemment. Et donc, c'est bien comment vous réenchantez un rituel ancien avec votre expérience du jour. Talmud demande, suivi par beaucoup de sagesse, qu'on retrouve à peu près sous la même forme dans la sagesse chinoise, qui est plus grand, un nain ou un géant? Le Talmud conclut en disant, les nains, lorsqu'ils sont juchés sur les épaules des géants. On n'est pas plus grand qu'eux, mais on voit un tout petit peu plus loin grâce à leur expérience. Et c'est donc l'histoire de ces rites, interprétés et réinterprétés sans cesse, qui nous pose, nous, comme les descendants et les héritiers de ceux qui ont posé ces gestes et nous oblige à les repenser comme eux les ont pensés. Monsieur le gouverneur, évidemment, je crois que le respect du rite, selon Pascal, amène à la foi, mais amène aussi au risque de l'insincérité, c'est-à-dire que vous enfermez le rite dans quelque chose qui devient routinier et qui ne vous pose plus question. Voilà pourquoi il faut interroger et réinterroger nos gestes sans arrêt, au point de ne plus agir par automatisme. Et je pourrais vous en donner un exemple incroyable. Je pense que, comme nous tous ici, quand vous entrez dans une pièce, vous mettez machinalement un coup de la main droite sur le lieu où probablement se trouve l'interrupteur. C'est une façon naturelle d'entrer dans une pièce sombre. Je ne le fais pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne le fais pas. Parce que le samedi, je n'ai pas le droit d'allumer une lumière. Et donc, pour contrôler mon geste le samedi, je suis obligé de le contrôler en permanence. Ce qui veut dire que même dans la semaine, automatiquement, je pense, nous ne sommes pas samedi, je peux allumer. Mais vous voyez, ce simple fait de penser m'oblige à bannir l'automaticité de mes gestes. Et je l'ai compris en volant avec des aviateurs qui doivent, et c'est incroyablement juif, j'allais dire, dans le rite et l'action, les aviateurs sont entraînés à avoir des réflexes qui vont plus vite que leur pensée. Une panne, j'étais dans un aéronef, et brusquement, le formateur simule une panne. Je peux vous dire que vous dites c'est simulé, mais enfin, on ne sait jamais, sur un malentendu, la panne, elle peut être vraie quand même. Donc, les aviateurs sont habitués à agir plus vite que leur pensée, avoir des réflexes, et en même temps avoir toujours une part de leur esprit qui contrôle leurs réflexes. C'est malheureusement ce qui est arrivé dans un accident aérien terrible, le vol de Rio, où on voit que le pilote, il y avait un pilote et un copilote, le pilote, vous voyez que l'avion n'arrivait plus, il a voulu remonter, alors qu'il fallait prendre la vitesse en piqué. L'un poussait le manche pour prendre la vitesse, l'autre tirait le manche pour rejoindre son domaine de vol et pour retrouver son altitude. En réalité, ils ont agi par réflexe sans penser ce qu'ils étaient en train de faire. Donc vous voyez, il y a toujours ce risque que vous pointez justement du doigt. L'automaticité des choses ne doit pas empêcher de réfléchir sur cette automaticité. Professeur, le rite est évidemment est à la fois une croyance, un usage, et je reviendrai à la théorie homéopathie. L'homéopathie, c'est une essence d'un rite qu'on retrouve dans un geste. Mon maître, quand j'étais jeune élève à l'école rabbinique, nous avait tous perturbés à l'école rabbinique en nous posant la question suivante. Une dame, c'était La Rochelle. Pour nous, La Rochelle, on était à Paris, jeune parisien, enfin, moi j'étais de Lyon, mais enfin, c'était vraiment le bout du monde, La Rochelle. C'est les marches de l'Empire, pratiquement. Et une dame de La Rochelle l'avait appelée pour savoir, elle avait acheté de la viande non cachère dans le magasin du coin, est-ce qu'elle devait appliquer la règle de saler la viande selon la règle juive? On doit saler la viande pour en extirper tout le sang. Est-ce qu'elle devait appliquer cette règle de saler la viande sur une viande non cachère? Ce qui, rituellement, est ridicule. Et mon maître nous avait bluffés tous en répondant « Oui, elle doit le faire ». Pourquoi? Pour transmettre le geste à ses enfants. Donc, transmettre le geste, c'est transmettre une éducation, une élévation par le rite. Refaire un geste, c'est finalement trouver son propre sens, mais déjà trouver à se mettre sur les pas de nos prédécesseurs. Monsieur le Président, oui, il y a évidemment des rites républicains, et si je vous parlais du pont Alexandre III tout à l'heure, ce rituel du pont Alexandre III, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'inventer d'autres rites républicains qui sont étonnants. Je prendrai une blague célèbre. Une blague célèbre. Lorsqu'un humoriste, en 2005 ou 6, la Coupe du Monde de football, se fait passer pour le président de la République, appelle le capitaine de l'équipe de France de l'époque, en lui disant, en imitant sa voix, et en lui disant « faites ça pour moi, mettez la main, ce qui était un geste américain en fait, mettait la main sur le cœur au moment de la Marseillaise, et que Zidane convainc toute l'équipe de le faire, et que brusquement ça devient un geste de reconnaissance à la patrie, qui est celui des Américains, mais qu'on peut très bien prendre, il y a eu quelque chose là de l'invention d'un nouveau geste. Donc, sans aller jusqu'à demander aux humoristes de trouver comment inventer de nouveaux républicains, on voit qu'il y a la place pour. Il y a de la place pour cela. Je crois qu'une Marseillaise dans un stade, c'est aussi une façon de porter un geste républicain. Voilà un projet pour la réponse à la lettre du président du Sénat. Essayer de réfléchir sur l'invention de nouvelles règles républicaines. Enfin, sur le protestantisme, et j'ai déjà répondu à la question sur le protestantisme, je crois qu'il y a effectivement dans le protestantisme la perte de beaucoup de rites, même s'il y a d'autres rites, notamment par les charismatiques et par le protestantisme baptiste, mais il y a le retour au texte qui permet de retrouver le geste, par exemple le partage du pain, le partage du vin, c'est-à-dire le cœur même de ce qu'est la foi chrétienne, qu'on trouve d'ailleurs différemment chez les orthodoxes. Mais je crois que être capable de porter des rites qui font de l'intégration, c'est être capable de trouver des rites qui donnent chaque fois à réfléchir sur le sens qu'on place dans l'idée d'être ensemble.